Nous sommes reconnaissants de pouvoir chanter, croire et adorer et de savoir que ce qu'il a fait est fait pour l'éternité. Cela a eu lieu pour toi. C'était pour toi, pour moi, c'était pour nous tous que cela a eu lieu. Et en ce jour en particulier, nous sommes pleins de gratitude, de reconnaissance, car notre Seigneur est ressuscité. Il vit, et moi aussi avec lui, car il a dit, « Je vis, et vous vivrez aussi. » Ce jour est le plus grand jour dans l'histoire du salut de notre Dieu. Si Christ avait été crucifié et enseveli, mais n'était pas ressuscité, notre rédemption aurait été remise en question. Par la résurrection, l'œuvre de rédemption a été couronnée. Et nous savons donc qu'il est ressuscité comme le premier et que nous ressusciterons. Oui, nous sommes déjà passés de la mort à la vie ou à travers elle. Nous regardons en effet ce monde avec les yeux ouverts et voyons que la parole de Dieu s'accomplit de toutes les manières possibles. Luc 21 dit que le monde sera dans la perplexité, que les mers gronderont et que les gens seront angoissés sur la terre, qu'il y aura des guerres, des cris de guerre, des famines et des temps de cherté, des tremblements de terre et des troubles. Tout cela se produit de plus en plus de nos jours. Et alors le Seigneur nous dit, quand donc vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption approche. Nous, en tant que ceux qui croient de tout cœur que Dieu a envoyé son serviteur et prophète pour remettre toutes choses en place, nous croyons que nous vivons maintenant dans la dernière génération, que nous sommes arrivés et que nous sommes arrivés à la fin de cette dernière génération et que Dieu est en train de terminer son œuvre et nous voulons participer avec un cœur sincère à ce que Dieu fait maintenant. C'est aussi le sens et le but des réunions auxquelles nous nous réunissons, pas seulement pour entendre la parole de Dieu, mais pour l'écouter, la croire et la laisser agir sur nous pour que nous soyons mis en accord avec Dieu et ses paroles afin que Dieu puisse faire ce qui est définitif et final. Nous sommes tous d'accord sur le fait que tout ce que Dieu a voulu révéler, il l'a révélé et rien ne peut être ajouté à la parole révélée de Dieu, mais rien ne peut non plus être retiré, retranché. Et nous sommes tenus devant Dieu et nous lui devons ainsi qu'à nous-mêmes de croire tout comme il l'a dit et révélé. Le temps des opinions et des interprétations personnelles est révolu. Dieu le Seigneur a parlé. Qui ne devrait pas écouter? C'est ce que dit le prophète Amos. Amos 3, verset 8. Posons maintenant quelques passages bibliques qui décrivent d'une manière ou d'une autre ce jour ou qui nous rappelle ce qui s'est passé ce matin-là de Pâques. Je voudrais commencer par le psaume 24, verset 7. Le psaume 24, verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8, qui est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. Verset 9, portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 10, qui donc est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées, voilà le roi de gloire. Nous savons que le roi des rois a quitté sa gloire céleste, est venu sur cette terre, a combattu le plus grand des combats. Il est passé par Gethsémani pour arriver à Golgotha. Certes, le serpent l'a piqué au talon, mais c'était bien le bon point. Je l'ai déjà dit parfois, et il faut, si l'on a la sagesse divine devant les yeux, dire et redire, « Oh Dieu, que tu es grand, que tu as tout arrangé avec splendeur. » Il n'est pas écrit quand il va te piquer la main ou quelque part dans la jambe, mais directement dans le talon. Le Seigneur n'a eu qu'à poser le pied et à écraser la tête du serpent. Il n'y a pas eu besoin de faire des allers-retours. Le serpent a piqué au bon endroit et la tête a pu être écrasée du premier coup. Et la victoire de notre Dieu a pu être révélée. Permettez-moi de lire le verset 14 du chapitre 13 du prophète Osée. Osée, chapitre 13, verset 14, voici l'une des promesses les plus puissantes de l'Ancien Testament. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est tes pestes? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Quelle parole puissante! Dans l'Ancien Testament, tous devaient descendre, car c'est ainsi que la mort s'est abattue sur tous les hommes et qu'ils ont dû descendre. Mais beaucoup sont descendus dans l'espérance vivante de la résurrection et sont ensuite remontés avec Christ, comme nous allons le voir. Cela vaut la peine de croire. Parfois, il y a des gens qui ont de la peine à croire et ils disent, je ne vois rien de surnaturel. Ces saints de l'Ancien Testament ont-ils vu beaucoup de choses? Nous ne pouvons peut-être pas en juger entièrement, mais nous pouvons dire une chose. Ils ont porté dans leur cœur, de leur vivant, la promesse de Dieu d'un salut à venir par le Messie. Et quand leur temps est venu, ils l'ont vu. Ici, sur terre, la différence entre les croyants et les non-croyants n'est pas du tout visible à l'extérieur. Et c'est pourquoi le prophète Malachie dit, au jour que je ferai, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Malachie 3, 18. Et devant ma face est écrit un livre de souvenirs. Bien-aimés, je le répète, il se peut que nous ne voyons pas toujours tout directement sous nos yeux, mais si nous croyons ce que Dieu a dit, alors le jour viendra, l'heure viendra, où nous verrons ce que nous avons cru. Dieu ne nous doit aucune réponse. Ici, le Seigneur parle. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Le Seigneur a engagé le combat contre Satan, la mort et l'enfer. Il n'a pas seulement mené le combat, il a glorieusement vaincu. Amen. Alléluia. Il est ressuscité et a remporté la victoire sur la mort, l'enfer et le diable. Et maintenant, la glorieuse, donc plutôt le glorieux message, est que sa victoire est aussi la nôtre, car le salut de notre Dieu nous a été révélé. Je les délivrerai, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est accompli. De l'emprise de la mort, il a libéré. Si dans l'Ancien Testament, toutes ces choses étaient écrites sous forme de futur, dans le Nouveau Testament, elles sont déjà rapportées comme des faits divinement accomplis. Tout est accompli. C'est fait. Ça a eu lieu. Le Seigneur est venu et nous a apporté la rédemption. Verset 14, la deuxième partie. Où sont tes pestes, ô mort? Où est ta peste, ô enfer? Où séjour des morts? Et Paul l'a si magnifiquement exprimé en se référant peut-être à cette parole de dans 1 Corinthiens 15, verset 55. Enfer, où est ta victoire? Ou mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Remercié soit Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il ne dit pas celui qui nous donnera la victoire dans le futur, mais qui nous a donné la victoire. Golgotha était déjà derrière lui et il pouvait voir l'œuvre de rédemption accomplie et aussi la proclamer. Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon a été planté dans le talon du prince de la vie, mais la mort a été engloutie par la vie et notre Seigneur a remporté la victoire. Croyons-le aujourd'hui, une fois pour toutes, de tout notre cœur. La rédemption est accompli. Dieu l'a fait pour toi et pour moi. J'ai pu constater et vivre que la mort ne fait pas encore peur, ne peut pas faire peur. Oh, quelle paix et quelle certitude au moment du passage de l'autre côté. Pas d'inquiétude, pas d'incertitude. Mais comme le chante le compositeur de chansons, si la paix avec Dieu pénètre mon âme, alors mon cœur exulte et se réjouit. Et c'est ainsi que nous pouvons nous aussi exulter et pousser des cris de joie. Lisons quelques versets de Matthieu 27, du verset 50. Matthieu 27, du verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Verset 53, sortirent de leur tombeau après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? De la mort, je les rachèterai. Il a racheté, il a délivré, il a ôté le pouvoir à la mort. Et tous les saints de l'Ancien Testament qui ont participé à la première résurrection sont alors ressuscités autrefois avec lui et sont apparus à beaucoup dans la ville sainte. Nous ressusciterons lors du retour de Jésus-Christ et tous ceux qui vivront et qui resteront seront à ce moment-là changés, transformés. Ça, c'est la parole de Dieu. Et cela se fera, cela s'accomplira, aussi certain que le Seigneur l'a dit. Ils sont sortis de leur tombe après sa résurrection. Il devait être le premier-né d'entre les morts. Il est sorti le premier, et tous ceux qui lui avaient fait confiance l'ont suivi dans cette marche triomphale. Puis, après les 40 jours, notre Seigneur est entré dans la gloire avec les saints de l'Ancien Testament. Et le psalmiste a dit, psaume 24, verset 9, c'est ce que nous avons lu, « Ouvrez, porte antique, et laissez entrer le roi. » Qui est ce roi? C'est le roi d'honneur, des honneurs, le roi de gloire, puissant dans le combat, le vainqueur de Golgotha. Ouvrez-vous, porte éternelle, et laissez entrer le roi avec tout ce qu'il a racheté. Si ce fut déjà un triomphe aussi formidable que sera ce, lorsque le Seigneur fera entrer dans sa gloire la foule des rachetés de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Oh, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point entré dans le cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Et nous avons en nous cette bienheureuse espérance, cette espérance bénie, et plus que cela, l'assurance de la foi, nous la portons dans notre cœur. Luc 24, du premier verset, Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, après le sabbat, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Verset 3. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4, tandis qu'elles étaient perplexes À ce sujet, deux hommes en habits resplendissants se présentèrent soudain à elle. Verset 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Verset 6. Il n'est point ici, mais il a été ressuscité. N'est-ce pas là une parole merveilleuse? Et nous, tous qui sommes déjà allés à Jérusalem, nous avons en effet vécu dans notre cœur ce qu'il y a de plus grand et de plus puissant lorsque nous avons pu entrer dans ce tombeau. Et à chaque fois, j'ai remercié mon Seigneur d'être ressuscité et d'être vivant. Tous les autres chefs religieux, ils sont restés dans leur tombe. À quoi servent les pierres dorées sur leur tombe? C'étaient de grands philosophes et ils sont morts avec leur philosophie. Il y avait de grands chefs religieux et des séducteurs et ils sont tous morts. Mais Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, est venu nous racheter, toi et moi, et dans ce corps de chair où nous étions tombés, il nous a ramenés et nous avons été réconciliés avec Dieu. Acceptez-le une fois pour toutes. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Mais ce ne sont pas seulement quelques femmes ou quelques apôtres, mais plus de 500 frères qui ont vu notre Seigneur après sa résurrection. Je lis à ce sujet dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Et qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont maintenant vivants, mais dont quelques-uns se sont endormis. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10. Or c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans succès. Au contraire, j'ai fait beaucoup plus que tous. Non, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu, Paul s'est considéré comme le plus humble, le moins valable dans tout cela. Et il dit, tout à la fin, il m'est apparu à moi aussi. Puis, glorifiant la grâce de Dieu, il écrit, « Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce à mon égard n'a pas été sans succès. » Ne pouvons-nous pas tous dire la même chose aujourd'hui? C'est par la grâce de Dieu que je suis et que tu es ce que nous sommes devenus. Non pas par mérite ou dignité, mais par la grâce de notre Dieu. Ensuite, je lis dans le même chapitre au verset 20, dans le même chapitre du verset 20. Or, Christ est ressuscité d'entre les morts comme le premier de ceux qui se sont endormis, verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22, en effet, comme en Adam, tous meurent, de même en Christ, tous seront ramenés à la vie. Verset 23, mais chacun en son rang. Christ comme premier, puis plutôt ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Verset 24, ensuite viendra la fin. Donc nous savons qu'il y a une première et une deuxième résurrection. La première résurrection aura lieu lorsque Jésus-Christ reviendra et que les morts en Christ seront ressuscités dans l'incorruptibilité, selon 1 Corinthiens 15 du verset 51 et 1 Thessaloniciens 4 du verset 13. 1 Corinthiens 15, verset 51 et 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Ces deux passages bibliques traitent du retour du Seigneur qui est maintenant très, très proche. Et quelqu'un pourrait demander, qui peut donc le dire avec une telle certitude? Mes amis, nous n'avons pas affaire ici à des pronostics humains ou à des tâtonnement incertain, mais à la parole infaillible de Dieu qui nous a été donnée pour ce temps et révélée par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi c'est une telle certitude qui imprègne notre cœur. Elle n'a été produite ni par toi ni par moi, mais par l'Esprit de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, et cela dans ton cœur et dans le mien. Lisons maintenant Colossiens 2, du verset 13. Colossiens chapitre 2, du verset 13. Vous aussi, qui étiez autrefois morts dans vos transgressions et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a aussi fait revivre ensemble avec lui en nous ayant pardonné par grâce toutes nos transgressions. Verset 14. En ce qu'il a effacé l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient, qui était un obstacle pour notre salut, et qu'il l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Verset 15, puis, ayant complètement désarmé les puissances, et les autorités, il les a publiquement exposées, triomphant d'elle en lui. Oh, quelle parole merveilleuse et glorieuse. Par Golgotha, ce ne sont pas seulement nos péchés qui ont été pardonnés, ce n'est pas seulement là, seulement que l'acte des fautes a été effacé, ce n'est pas seulement la rédemption qui est venue, mais une vie nouvelle, par la grâce de notre Dieu. Nous avons été crucifiés avec lui, enterrés, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui pour une vie nouvelle, par la grâce de notre Dieu. Il est dit ici que tout cela s'est produit par la croix. Après avoir complètement désarmé les puissances et les pouvoirs, les autorités. Cela en fait partie. Nous avons affaire à des puissances ennemies qui ont connu une capitulation totale. Et beaucoup d'entre nous se souviennent encore du moment où cette capitulation totale et inconditionnelle nous est tombée dessus. Toutes les négociations précédentes n'ont pas abouti. Ceux qui étaient sûrs de la victoire ont exigé une reddition inconditionnelle, totale, complète. Et mes amis, il n'est pas nécessaire d'avoir de la fierté nationale pour compatir un temps soit peu quand on a vu de ses propres yeux des généraux décorés avec leurs uniformes se tenir les mains ainsi et se rendre. C'était une capitulation complète, totale. La capitulation que nous lisons ici ce matin est la plus complète, la plus définitive et la plus totale qui ait jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Satan et toute son armée ont été vaincus et nous croyons en la victoire totale de la croix à Golgotha. Jésus est le vainqueur à la victoire totale par la croix, plutôt à Golgotha. Jésus est le vainqueur et il nous a offert la victoire par grâce. Il est dit ici si merveilleusement, verset 15. Puis ayant complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a publiquement exposées, triomphant d'elles en lui. Colossiens 2, verset 15. Tout pouvoir de péché, tout pouvoir de maladie, tout pouvoir de mort, tout pouvoir d'ennemi a été vaincu sur la croix à Golgotha. Et si nous croyons dans cette foi biblique qui est une foi en la résurrection, ce n'est pas une foi morte, mais une foi en la résurrection, une foi ressuscitée avec Christ. Et c'est pourquoi nous voulons recevoir cette victoire de notre Dieu dans une foi totale de la main de Dieu lui-même. Lisons pour cela la parole de 1 Pierre chapitre 2 afin de comprendre ce que Dieu a fait de nous qui pouvons croire par Golgotha en Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 7. 1 Pierre chapitre 2 verset 7. C'est donc à vous qui possédez la confiance qu'est donné le bien précieux. Amen. C'est donc à vous qui avez la foi que ce bien précieux est accordé. À vous qui croyez, à vous qui avez confiance, le bien précieux est accordé. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est précisément elle qui est devenue la pierre angulaire. Verset 8. Et donc une pierre d'achoppement et rocher de scandale, il trébuche sur lui dans leur désobéissance à la parole, dans leur désobéissance contre la parole. Bien aimé celui qui se heurte à Jésus-Christ et qui n'a pas intérieurement un oui total à lui, se trouve encore dans l'incrédulité, et c'est cette incrédulité qui provoque en lui cette offense, en lui qui est la parole. Mais la foi écarte l'offense et le rocher de l'offense devient le rocher du salut. Du salut. Alléluia. Et nous levons les yeux vers celui qui nous a couronnés de grâce et de miséricorde. Ensuite, le verset 9 dit, vous, par contre, vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple élu, pour lui appartenir, afin que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10, vous qui étiez auparavant un non-peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, autrefois sans la miséricorde de Dieu, mais maintenant riche de la miséricorde de Dieu. Alléluia! Louange, gloire et honneur à notre Dieu. C'est un fait divin. Et certains croyants ont dit 10, 20, 30 ans de foi et ils prient encore pour le pardon, pour la grâce, pour ceci ou cela. Et ils ne savent pas que nous sommes déjà le peuple saint de Dieu, racheté et établi dans la condition de fils. Verset 10, vous qui étiez auparavant un non-peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Nous ne le serons pas d'abord, nous le sommes déjà. Jean écrit dans sa lettre au 3e chapitre que nous sommes les enfants de Dieu et que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Nous ne pouvons pas le croire, le saisir peut-être. Nous préférerions nous coucher dans la poussière et dire, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Mais c'est justement parce que nous sommes des hommes pécheurs que nous n'avons pas pu nous aider et qu'il est venu à nous pour nous aider et nous sauver. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et nous le croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est seulement dans Pierre, 1 Pierre chapitre 3 verset 18, 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ aussi est mort une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Nous pourrions maintenant lire dans l'épître aux Éphésiens, au 4e chapitre, celui qui est descendu est aussi monté. Il est monté aux cieux. et a fait des dons aux hommes. Éphésiens 4, verset 8. Oh, si nous pouvions aujourd'hui saisir par la foi, comme jamais auparavant, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ notre Seigneur sur la croix à Golgotha. Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés comme un juste, pour les injustes, comme un pur, pour les impurs, comme l'immortel, pour les mortels. Il a pris sur lui toutes choses. Nous étions si précieux à ses yeux, toi et moi, qu'il a pris tout cela sur lui. Ah, là même le cœur le plus dur devrait s'adoucir et dire, Seigneur, si tout cela est ainsi, alors je n'ai aucune possibilité, ou seulement une possibilité, c'est de me consacrer réellement à toi et de recevoir par grâce ce que tu as fait pour moi. Christ est une fois pour toutes, pour tes péchés et les miens, pour les péchés de tous ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie. Pour eux, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Et quand il est mort sur la croix, il s'est exclamé, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Puis il est descendu, car dans l'Ancien Testament, il a dit, mort, je serai pour toi une peste. Je serai pour toi un objet de terreur. Osée 13, verset 14, traduction Luther. Et puis il est descendu. Et je suis convaincu que lorsque la mort recevait tous les autres en bas, la chose était toujours belle et bonne pour elle. Mais lorsque le prince de la vie est descendu, la mort a eu sa terreur. Il savait que son heure avait sonné. Il a perdu son droit à ce moment-là sur le peuple de Dieu, car le sang de la réconciliation a coulé sur la croix à Golgotha et il n'a pas pu faire autrement que de faire ainsi et de se soumettre totalement avec tous ses pouvoirs, lui l'ennemi, à la capitulation totale. Croyez maintenant aujourd'hui, c'était une capitulation totale et complète des puissances de Satan. Et Jésus est sorti pour comme le glorieux et grand vainqueur. Il savait qu'ils étaient des croyants et qu'ils avaient part à la vie éternelle. Et ils attendaient seulement ce jour et cette heure. Que devait-il se passer en eux? Et je rappelle ce que frère Branham a dit. Il a vu certaines choses en esprit et en vision. Il a aussi été transporté en bas. Et il dit, je vois le Seigneur descendre maintenant. Et j'entends Abraham dire, oh, c'est lui qui m'a visité autrefois, alors que j'étais assis sous le térébinthe. Et il s'exécute ensuite et énumère tous ses saints où certains d'entre eux et leur heure étaient venus. Alléluia! Notre heure est proche aussi. Oui, elle est là dans laquelle le Seigneur se glorifie à nouveau. Et nous ne demanderons pas longtemps aux incrédules de devenir croyants. Le Saint-Esprit viendra sur eux, les convaincra et les amènera au Christ. Ça, je le crois de tout mon cœur et de toute mon âme. Alors, ce n'est plus ton évangélisation, ni la mienne, mais c'est l'impact de Dieu sur l'évangile qui est une puissance de Dieu. Bien-aimés, un baptême d'eau doit avoir lieu après ce service divin, après ce culte. Certains souhaitent se faire baptiser et nous allons donc donner suite et maintenant passer brièvement à l'autre sujet. Tous ceux qui sont venus à la foi, tous ceux qui ont vraiment cru en Jésus-Christ, qui sont venus à la foi en Jésus-Christ, qui portent dans leur cœur la certitude que Jésus-Christ est leur sauveur et leur rédempteur. Qu'il a pardonné leurs fautes et ôté leurs péchés, qu'ils ont été réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, que l'Esprit de Dieu vous attire aujourd'hui d'une manière aussi puissante. Je vous le dis, celui qui aujourd'hui dans cette réunion n'a pas ressenti le courant d'air, le puissant courant d'air de l'Esprit de Dieu, tout est passé sur lui et il y repensera un jour en disant, « Oh, pourquoi ai-je fermé mon cœur, pourquoi ai-je résisté? Je n'ai pas accepté l'offre de Dieu, éternelle de Dieu. » Les personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile ne s'en sortiront pas bien. Mais les personnes qui l'ont entendu et ne l'ont pas accepté, les reproches ne leur seront pas épargnés et ils peuvent être à eux-mêmes un tourment. Cher cœur, laisse-toi appeler aujourd'hui par le Seigneur. Laisse Dieu te gracier, te faire grâce et te couronner de miséricorde. Il pardonne toutes tes fautes et tous tes péchés et te guérit de toutes tes infirmités. Aujourd'hui, il y a assez de puissance divine, de puissance de Dieu dans cette salle pour sauver toute âme, libérer tout esprit, guérir tout corps. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Mais la parole doit susciter en nous la foi. Et la foi ne reste pas assise en silence. La foi entre en action et Dieu se révèle à ceux qui par la foi le prennent par sa parole. La résurrection de notre Seigneur est en effet le couronnement de l'œuvre de rédemption. Si nous acceptons tout aujourd'hui, ceux qui souhaitent se faire baptiser ont certainement déjà reçu suffisamment d'enseignements sur le baptême biblique pour que nous n'ayons plus besoin d'en parler. Que Dieu nous bénisse tous. Je sens que nous sommes en train de conclure ici et que nous demandons ardemment à Dieu de manifester sa pleine victoire selon sa parole par la puissance de son sang, de son esprit et de son nom en nous tous, de confirmer sa parole et de se glorifier en nous. À lui, la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration. Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et le même dans toute l'éternité. Et parce qu'il vit et qu'il est le même, il sauve aujourd'hui, il guérit aujourd'hui, il parle aujourd'hui. Il se révèle aujourd'hui parce qu'il est le même tel qu'il était hier. Alléluia. Acceptons-le de tout notre cœur dans la foi. Et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Que cela se fasse. Que cela soit fait. Amen. Levons-nous et n'attendons pas, mais adorons comme d'une seule bouche. Alléluia. Père Céleste, nous te remercions pour ce matin, pour ta sainte et précieuse parole, Seigneur. Seigneur, nous sommes si heureux de pouvoir participer à la parole que tu as laissée pour ton peuple, pour tes enfants, pour tes élus, en ces jours, ô Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas la valeur de cette grâce, mais Seigneur, tu as pris soin de nous, tu nous as purifiés, tu nous as lavés dans ton sang. Seigneur, ô Dieu, nous t'adorons, Seigneur, car tu es notre secours, tu es notre puissance, notre force, tu es devenu pour nous tout en tous, Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons gloire, gloire à ton nom glorieux, Seigneur. Ô Seigneur, que nos cœurs t'acclament, Seigneur. Fais que nos cœurs s'ouvrent, Seigneur, et que notre bouche, Seigneur, puisse te louer, ô Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi en ton nom, ô Seigneur. Viens ici, Seigneur, encore plus de toi, Seigneur, encore plus de ton esprit, Seigneur, encore plus de ta divine puissance, Seigneur. Remplis-nous tous, Seigneur, de la puissance d'en haut, Seigneur, avec ta présence, ô Dieu. Ô Seigneur, si ce n'est pas le cas, Seigneur, crée encore quelque chose, ô Seigneur. Nous le demandons, Seigneur, en ton nom. Alléluia. Gloire à toi en ton nom. Alléluia à toi. Accepte, reçois le remerciement, Seigneur. Reçois la louange, ô Dieu. Ô Seigneur, adoration. Alléluia. Amen.